France Inter.
On emporte l'histoire aujourd'hui, 1572, le massacre de la Saint-Barthélemy. Dans la nuit du 23 au 24 août 1572 à Paris, le roi Charles IX et sa mère Catherine de Médicis donnent l'ordre d'assassiner l'amiral de Coligny et une vingtaine de chefs protestants soupçonnés de vouloir relancer la guerre. Mais à ce premier massacre de la Saint-Barthélemy va en succéder un autre, d'une ampleur et d'une violence inouïe dans l'histoire de France. 10 000 protestants seront tués. Un massacre perpétré au nom de Dieu. Il est 2 heures du matin lorsque le tocsin de l'église Saint-Germain-l'Auxerrois se met à sonner. Pour les tueurs, c'est le signal. Pendant des heures, ces miliciens catholiques sonnent aux portes de leurs voisins protestants, qu'ils connaissent de longue date, emmènent de force hommes, femmes, enfants vers la Seine, les déshabillent, parfois les violent, les tuent de mille manières et jettent leurs corps dans le fleuve, bientôt rouge de leur sang. Les pires parmi ces tueurs, nous le savons aujourd'hui, s'appellent Thomas Croisier, Nicolas Pezou et Claude Chenet. 3 hommes qui ne seront jamais punis, mais seront au contraire récompensés pour leurs crimes.
France Inter, Stéphanie Duncan, autant en emporte l'histoire.
Jérémy Foa, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historien, maître de conférences en histoire moderne à l'université Aix-Marseille et l'auteur d'un livre publié en 2021, « Tous ceux qui tombent, visage du massacre de la Saint-Barthélemy ». Alors on croyait tout connaître de ce massacre de la Saint-Barthélemy, mais avec vous, dans ce livre passionnant, d'une écriture très originale, littéraire presque, je dirais, on découvre cet événement sous un angle totalement nouveau. Vous écrivez que vous l'avez étudié en l'observant par le bas, au ras du sang. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Oui, c'est vrai que la Saint-Barthélemy, c'est un sujet très connu de l'histoire de France, dont on pensait avoir absolument tout dit. Et en commençant à travailler sur ce livre, je me suis aperçu que la plupart des livres qui avaient été rédigés sur le sujet l'avaient été du point de vue des grands, du point de vue du Louvre, du point de vue du ciel. On s'intéressait beaucoup à la fois aux commanditaires, peut-être Catherine de Médicis, peut-être les Guises. On s'intéressait beaucoup aux victimes, notamment les nobles, les aristocrates, Coligny. Et puis on disait 3000 morts, une sorte de chiffre comme ça abstrait. Et j'ai voulu peut-être inverser la focale en m'éloignant du Louvre, en m'éloignant de Catherine de Médicis et en tentant de donner des noms. Alors aussi bien aux tueurs, comment s'appelait-il, qui concrètement a du sang sur les mains, et puis aussi aux victimes ordinaires, en partant de cette idée que ben, tous ces individus qui sont morts le 24 août 1572 avaient des prénoms, avaient une famille, avaient des métiers, avaient une adresse, et j'ai voulu finalement donner un peu de chair à leur histoire, tenter de raconter ce qui leur était advenu le soir de la Saint-Barthélemy.
Jérémy Foa, l'histoire que je vais raconter dans un instant, comme votre livre, inspiré de votre livre, ne se passe pas à la cour, mais dans le quartier du Châtelet, au centre de Paris. Elle reprend quelques-uns d'ailleurs des personnages bien réels que vous avez arrachés à l'oubli, les victimes et les tueurs. Mais pour bien la comprendre, pouvez-vous, Jérémy Foa, nous rappeler le contexte des guerres de religion en France, justement en août 1572 ? En apparence, la paix est revenue. Il y a ce mariage entre Marguerite de Valois et Henri de Navarre, donc protestant. Mais cette paix, en réalité, est très fragile.
Oui, pour bien comprendre le massacre de la Saint-Barthélemy, il faut réintroduire l'ingrédient de la surprise. C'est-à-dire que c'est surprenant parce que le contexte immédiat n'est absolument pas ni à la guerre, ni à la violence. Le contexte immédiat, vous venez de le mentionner, c'est celui d'un mariage. Le mariage qui a lieu le 18 août 1572, donc vous voyez 6 jours avant le massacre de la Saint-Barthélemy, entre une représentante du catholicisme, Marguerite de Valois, la fille de Catherine de Médicis, la sœur du roi Charles IX, avec un représentant du protestantisme, Henri de Navarre, futur Henri IV, pour asseoir la paix.
On revient quand même de guerres de religion extrêmement sanglantes.
Alors voilà, les guerres de religion ont commencé bien avant le massacre de la Saint-Barthélemy, puisque traditionnellement on dit que ça commence en 1562, la première guerre de religion en mars 1562, après le premier massacre des guerres de religion, qui s'appelle le massacre de Vassy, une petite ville en Champagne. Donc il y a déjà eu un certain nombre de guerres avant le massacre de la Saint-Barthélemy, il y en a eu trois. Et pour mettre un terme à cette troisième guerre, Catherine de Médicis a signé un édit qu'on appelle l'édit de Saint-Germain en août 1570, donc 2 ans avant le mariage. On est donc dans une période de paix et c'est pour consolider cette paix, pour l'asseoir, qu'elle a cette idée, qui est une idée classique de la diplomatie d'Ancien Régime, de faire s'unir, si l'on veut, un représentant d'un parti avec une représentante de l'autre parti. On espère que le fruit de cette union, le bébé royal qui naîtra de l'union de Marguerite de Valois et d'Henri de Navarre, réconciliera enfin les Français, puisqu'il est un bébé à la fois protestant et catholique. Donc sur le papier, si vous voulez, c'est une très belle idée. En théorie, quand on se place au 18 août 1572, on est à l'opposé de la violence, on est à l'opposé d'un massacre, on est dans une période de joie, dans une période d'espoir, dans une période de paix.
Donc
et puis,
nous
tout
allons
va basculer
voir,
quelques jours.
Voilà, effectivement, tout va basculer dans les jours qui suivent. Jérémy Foa, on reprend tout à l'heure cette discussion. Tout de suite, 1572, le massacre de la Saint-Barthélemy, un texte de Christine Spianti, écrit spécialement pour Autant en emporte l'histoire. Réalisation Baptiste Guiton.
Quel beau jour! Quelle joie ce mariage! Enfin, c'est fini. Nous allons pouvoir vivre en paix. Ah, le voilà, c'est lui, c'est Henri, fier roi de Navarre et tous ses gentilshommes. Quel tumulte doit être en son cœur épouser une catholique! Il a accepté ce mariage pour nous, pour les protestants, et nous protéger de la guerre. Son beau et jeune visage est celui de la paix. Notre sang ne coulera plus. Il n'y aura plus de différence entre catholiques et protestants. Ah Seigneur, je n'arrive pas à y croire tout à fait. Est-il possible que cet enfant que j'attends, maintenant que Paris est apaisé, la France réunie, ce bébé pourra vivre sa foi protestante, en toute liberté de corps et d'âme. Est-ce possible? Je veux y croire, au nom de cette vie à venir.
18 août 1572. Sur le parvis de Notre-Dame, Jeanne Brégand, une Parisienne protestante, est parmi la foule qui voit défiler le cortège du mariage d'Henri de Navarre et Marguerite de Valois. Le chef des protestants épouse la sœur du roi Charles IX, fille de Catherine de Médicis. Ce mariage veut marquer la paix entre les deux religions que 10 ans de guerre civile ont déchirée. Jeanne Brégand quitte le parvis de Notre-Dame et emprunte le pont aux Meuniers qui relie au Châtelet. À la Renaissance, Paris est la plus grande ville d'Europe, avec ses 300 000 habitants, dont environ 15 000 protestants. Jeanne Brégand en fait partie. Si l'édit de Saint-Germain, signé 2 ans auparavant, garantit la liberté de conscience, le culte protestant reste interdit à Paris. Mais Jeanne a fait la connaissance d'autres protestants du quartier, lors des prêches qui ont lieu clandestinement chez des particuliers. En ce beau jour d'été, elle rejoint ses amies qui prennent le frais sur les berges de la Seine. Elles habitent tout le quartier très peuplé du Châtelet, le centre commerçant de Paris.
Huguette, tu n'as pas l'air de te réjouir. C'est un grand jour, mes chers amis. Henri et Marguerite auront bientôt des enfants. Ils seront l'incarnation vivante de la paix.
C'est ce que tout le monde dit. Moi, ce que je vois, c'est que les prix ont augmenté. Le pain, surtout.
La liberté de religion, ce n'est pas plus important que le prix du pain.
Dieu ne se mêle pas de ces affaires-là. Manger à sa faim, c'est bien aussi. Allons, tu as raison. C'est un beau jour, Jeanne. Je serais bien allée à Notre-Dame, mais avec toute ma marmaille.
Moi, il n'était pas question que j'y aille.
J'en viens et je pensais y voir Marie-Robert, elle n'y était pas. Son mari, le commissaire du Châtelet, y était, lui, et en grand apparat.
Il l'a épousée pour mettre la main sur la charge de commissaire du père de Marie-Robert. Si sa maison ne lui appartenait pas, il y a longtemps qu'il l'aurait mise dehors, il la hait.
Si je comprends bien, il est catholique et elle protestante.
Espérons qu'Henri de Navarre et Marguerite de Valois arriveront à s'aimer un peu.
Ah mon Dieu, à coup sûr, c'est Samuel qui est tombé à l'eau. Ah non, ce n'est pas lui. Bon, je vais rentrer à la maison avant que les enfants finissent à la baille.
Oui, Marie, rentrons, il fait trop chaud.
Je vous accompagne. Il fait si lourd. À quand l'orage?
Marie est la femme d'un marchand de soie teinturier de la rue Saint-Denis et Huguette est libraire. Au XVIe siècle, les femmes travaillent dans l'alimentation et le textile, mais elles sont aussi meunières, forgerons, tonnelières, orfèvres, et il leur est permis d'être libraire. Les trois amies quittent les berges de la Seine et se dirigent vers la rue Saint-Denis, la principale artère du quartier. Ce 18 août 1572, tout est calme. De nombreux Parisiens ont dédaigné les festivités, notamment les catholiques dévots, membres de la milice municipale, qui ont ces dernières années fait la chasse aux protestants. Pour faire partie de la milice, il faut habiter Paris depuis plus d'un an et être un bourgeois exerçant une profession dite honorable. Répartie dans toute la ville, la milice est chargée de garder les portes de Paris et de faire la police dans les rues. Thomas Croisier, orfèvre de son état, et Nicolas Pézou, financier, font partie de ces bourgeois de la milice qui ont été très actifs dans les persécutions des protestants. Les deux hommes arpentent la rue Saint-Denis, déserte.
Pour rien au monde, je n'aurais mis les pieds à ce mariage. Même des membres du Parlement et des ecclésiastiques ont refusé.
Un mariage contre nature, inspiré par les esprits infernaux, voilà ce que c'est.
Le pape ne l'a pas autorisé. Mais la Médicis a passé outre. La bénédiction nuptiale, ils l'ont reçue sous le porche. Et la mariée était seule devant l'autel. Ce mariage est maudit.
Je ne sais pas où le roi a trouvé l'argent. Tout ce faste pour un huguenot.
Tu sais qu'il est venu accompagné de 800 seigneurs ?
Il prépare quelque chose.
Qui sait ? En attendant, ça n'empêche pas les Parisiens de faire la sieste. Pas un char rue Saint-Denis.
Dormez en paix, bon catholique ! On vous protège !
Tu les vois, ces huguenotes ? Elles marchent dans la rue sans avoir peur.
Celle-là, la blonde, je la connais. Je l'ai arrêtée. Regarde, elle me nargue.
Nous ne sommes plus dans notre quartier. Il ne nous appartient plus. Allez, viens.
Marie, qu'est-ce qu'il y a ? Tu es toute pâle.
C'est lui qui m'a arrêtée il y a 3 ans.
Qui ça ?
Lui, là-bas. Le 24 mars 1569. Je ne l'oublierai jamais.
La milice ne peut plus rien contre nous, Marie. Nous n'avions alors que la piété pour s'opposer à la violence de nos ennemis. Aujourd'hui, notre religion a des droits.
N'empêche, à chaque fois que je le croise dans le quartier, j'ai un soulèvement de cœur. Il s'appelle Thomas Croisier. Un coquin. Il habite sur les quais.
Et l'autre, Nicolas Pézou. C'est lui qui m'a arrêté. Il habite pas loin non plus. Jeanne, jamais je n'oublierai la prison. L'humidité, la nourriture infâme.
Moi, en prison, comme j'étais enceinte, ma sœur avait le droit de m'apporter à manger. Et il y avait des malades. Partout. Des pestilences et des fièvres. Et il fallait dormir dans cette puanteur sur de la paille pourrie, d'où sortaient des vers et toutes sortes d'animaux. J'y ai passé 4 mois. Et toi ?
15 jours. Pézou nous a rançonnés. On a payé, et quand on est rentré chez nous, on a vu qu'il s'était servi. Tout ce qui avait un peu de valeur avait disparu.
Moi, quand je suis sortie, ils m'ont imposé d'aller vivre quelque temps chez ma sœur le temps d'accoucher et de baptiser mon enfant. Mon beau-frère est un bon catholique. L'enfer. Mon neveu, Jacques, surtout, en avait contre moi.
Et vous ne m'en avez jamais parlé ? À quoi bon raconter ce qui fait notre honte ? Pour te faire peur ? Et que tu baisses les yeux devant eux ? À présent, nous pouvons parler. Tout cela, les arrestations, les humiliations, c'est fini. La page est tournée. Tout de même, quand je les vois, ces Pézou et Croisier, ils sont là, tenir la rue et ne semblent pas se repentir du mal qu'ils ont fait à la France, ni reconnaître leur tort le moins du monde. Tant s'en faut, ils sont prêts à recommencer. Rien ne m'empêchera de garder la tête haute, Jeanne. Même Pézou et Croisier, même la haine dans leur regard. Nous sommes obligés de vivre en voisin avec eux, de les voir tous les jours dans la rue en sachant ce qu'ils nous ont fait. Il faudra bien oublier pourtant. Vous voilà arrivés. Je vous laisse, mes chers amis.
Fais attention à toi, Jeanne. Paris est plein d'hommes qui font la noce.
Thomas Croisier et Nicolas Pézou sont des militants catholiques qui n'ont jamais accepté les édits de tolérance religieuse proclamés par Charles IX. Ils font partie des 16 porteurs de la chasse des reliques de Sainte-Geneviève, la patronne des Parisiens. Ils marchent en tête des grandes processions qui, depuis le début des guerres de religion, se multiplient, implorant de délivrer le royaume des Huguenots. Ainsi, les deux miliciens ont sur les Parisiens une autorité aussi bien spirituelle que civile. Ce soir du 21 août, après leur journée de travail, Croisier et Pézou se retrouvent à l'église Sainte-Geneviève pour assister à la messe de Compli qui marque le coucher du soleil. Ils gagnent ainsi une chapelle réservée aux porteurs de la chasse.
Ces édits de tolérance sont la preuve que le roi est faible. Il n'y a pas loin à ce qu'il demande de rendre les biens qu'on a confisqués à ces hérétiques.
Ces traquets à la mode de Genève abusent de sa bonté. Il est manipulé par l'Italienne, sa mère, une étrangère.
Ça, on peut dire qu'elle lui fait avaler de gros morceaux d'indignité bien amers pour préserver la paix.
Les catholiques ont remporté toutes les victoires militaires. Et quoi? Par derrière, le roi négocie la paix. Nous gagnons par les armes, les Huguenots sur le papier. Et maintenant, ce mariage.
Cette union est un blasphème et la tolérance une trahison de la foi. La religion de ces hérétiques me blesse au plus profond de l'âme. Ils nous renient. Et le pape, les théologiens, le clergé. Ils ne prient ni les saints ni la Vierge Marie, cela m'inspire de l'effroi.
Mais on tolère de vivre avec eux. C'est ce qui m'inquiète, Pézou. Au jour du jugement dernier, Dieu jugera ce que j'ai fait. Est-ce qu'il nous condamnera d'avoir coexisté avec ces hérétiques sans rien faire?
Comment ça? On les a harcelés, arrêtés, emprisonnés, rançonnés. Et la justice les libère.
Vivre avec les démons comme voisins, c'est mettre en péril notre salut. Ah, souvent cette angoisse m'envahit. Je ne veux pas aller en enfer pour la fin des temps, je veux être sauvé.
Mais je redouble de dévotion. Je vais à toutes les messes.
Et demain vendredi, tu feras pénitence et abstinence. Mais cela ne suffira pas à assurer notre salut aux yeux de Dieu.
Le lendemain, le 22 août 1572, sur l'île de la Cité, Jeanne s'éveille dans sa maison située rue de la Calandre. La maison est étroite et haute de 2 étages. Le rez-de-chaussée est occupé par l'atelier d'horlogerie de son mari, Pierre de Seine. Comme toutes les femmes à l'époque, Jeanne Brégand ne porte pas le nom de son mari. Elle se tient dans sa chambre à l'étage, une pièce simplement meublée d'un long bahut où sont pliés les draps et les vêtements. Sur les murs sont accrochés de nombreux tableaux, portraits de famille ou paysages. Jeanne s'habille d'une chemise de lin et d'une robe légère, puis se lave les mains et le visage au-dessus de la cuvette.
Le berceau sera suspendu aux poutres à côté du lit. Comme ça, je le balancerai juste en tendant le bras. Il faut prévoir des langes, une chaufferette, une écuelle pour la bouillie. Oh, je l'aimerais mieux que tout, cet enfant. Il n'y aura rien de plus beau. Si c'est une fille, je veux qu'elle soit savante. Paris est la meilleure ville pour étudier. Jean Calvin lui-même y est venu au collège. Plus elle sera instruite, plus elle sera estimée. On l'appellera Diane, et si c'est un garçon, Jacob ou Abraham. Ce matin, la chaleur est déjà écrasante. C'est vendredi, jour de jeûne pour les catholiques, mais Dieu ne juge pas ce qu'on met dans sa bouche. Il y a de salut que par la foi, l'amour de notre cœur. Je vais préparer des ravioles au porc et des beignets à la fleur de sureau. Et puis j'irai voir Huguette dans sa librairie. Étrange. Il est midi et tout est clos rue Saint-Denis. Les drapiers et les merciers, le poissonnier, même la boucherie. La librairie d'Huguette aussi.
Huguette, qu'est-ce qui se passe?
Ah, Jeanne, c'est toi, entre. On a fermé boutique sur ordre des gardes du roi. Il y a eu un attentat contre le maréchal de Coligny, il y a 1 heure à peine.
Il est mort?
Non, une balle lui a transpercé le bras.
4 jours après le mariage, qu'est-ce qui s'est passé?
Coligny revenait du Louvre, après le conseil, et il était à cheval, lisait une lettre. On lui a tiré dessus d'une fenêtre, à l'arquebuse.
D'une fenêtre? Qu'elle l'a jeté? Qui a fait cela?
Le saura-t-on jamais? Quelque enragé catholique exaspéré que Coligny le protestant soit le confident du roi. Bon, si des hommes d'armes arrivent et voient que j'ai une cliente, tu sais comment ça se passe avec nous les protestants. Tu venais pour...
Il me faut une nouvelle Bible, mais je reviendrai.
Non, attends, je vais la chercher. Voilà, rentre vite chez toi.
Merci Huguette, je repasserai te payer plus tard.
L'amiral de Coligny est le chef de guerre des protestants et aussi, depuis 1 an, le principal conseiller du roi,
faisant ainsi de la cour un lieu de concorde religieuse. Coligny veut convaincre Charles IX de venir en aide aux calvinistes néerlandais en guerre contre l'Espagne. Pendant le mariage, l'ambassadeur espagnol a rompu les relations diplomatiques avec la France. Un acte qui a beaucoup agité les seigneurs catholiques, farouchement opposés à cette guerre contre l'Espagne catholique, qui est soutenue en revanche par Coligny. Immédiatement, le roi condamne l'attentat contre Coligny. Mais pour les protestants, l'épisode prouve qu'il n'a pas toute autorité pour faire respecter la paix. Le lendemain, Pierre et Jeanne travaillent tard le soir dans l'atelier d'horlogerie. Au mur sont disposées des horloges à balancier et sur les étagères s'alignent des petites horloges réveil cylindriques. Sur l'établi, parmi les boîtes renfermant ressorts, roues, aiguilles et cadrans, quelques montres, des objets coûteux qu'on met en poche ou qu'on porte en collier. Ce soir du 23 août, éclairée à la lumière de grands cierges, Jeanne nettoie le mécanisme d'une petite montre au boîtier de laiton doré.
La paix est morte hier matin à 11h, Pierre.
Pourquoi dis-tu ça, Jeanne ? Henri de Navarre a refusé de partir. Il dit que ce serait faire tort au roi que mettre en doute sa fidélité. Tu l'as bien vu au mariage ?
Oui, je l'ai vu. Charles IX et ses frères en habit de satin jaune pâle brodé d'or et de pierreries au pourpoint. Sous le lustre de cet or, je crains qu'il n'y ait du poison.
Toujours les soupçons, la défiance. Le roi a donné un gage irréfutable de sa bienveillance en mariant sa sœur à un huguenot, non ?
Et les fanatiques catholiques ont vécu ce mariage comme une provocation et cet attentat contre Coligny en est la preuve. Ils veulent la guerre.
Et le roi veut la paix. Hier après-midi, il allait rendre visite à Coligny avec le grand chirurgien Ambroise Paré pour bien le soigner. Il fait ardemment chercher le coupable.
Qui aura trouvé un cheval et adieu. Nous n'aurons jamais justice. Toute la journée, la garde royale a fait mouvement par les rues, tout un remue-ménage. Ces allées et venues ne me disent rien de bon.
C'est que nous sommes au commencement de la paix publique.
Ou à la fin. Ils ont fermé les portes de Paris et les seigneurs protestants ne pourront faire entrer leurs troupes s'ils doivent se défendre. Ça ressemble à un guet-apens. Pierre, il est peut-être temps de partir.
Écoute, je suis l'horloger attitré du maréchal de Montmorency. Ils ne s'en prendront pas à moi, Jeanne.
Ils s'en prendront à n'importe qui. Les catholiques méprisent les édits de pacification. Tu as bien vu, quand il était gouverneur de Paris, le maréchal de Montmorency n'arrivait pas à les faire respecter. Et on l'a poussé à quitter Paris.
Rassure-toi, Jeanne. La vraie parole de Dieu qui est dans les évangiles rallie même à la cour. Ah, voilà. Mon ami, peux-tu un instant écouter cette pendule que je viens de réparer ?
Oui. Elle bat régulièrement. Attends. Oui. Son cœur est intact. Déjà 10h du soir.
À la même heure au Louvre, la tension est au plus haut. Toute la journée, les gentilshommes protestants autour d'Henri de Navarre, qui n'ont pas confiance en le roi, l'ont menacé de faire justice eux-mêmes et de châtier l'agresseur de Coligny. Indignés, les conseillers catholiques intégristes voient dans cette menace un crime de lèse-majesté, le roi ayant le monopole de la justice. Pour les catholiques, il faut arrêter les protestants qui agissent comme un État dans l'État. De son côté, Coligny peut mobiliser les 800 seigneurs protestants présents à Paris. Le roi craint alors un coup de force qui mettrait en péril l'unité du royaume et la monarchie et prendrait la famille royale en otage. En urgence, ce soir du 23 août, le roi a réuni un conseil secret. Il charge le duc de Guise d'éliminer sur le champ Coligny et une vingtaine de chefs protestants, les meneurs. À 1h du matin, le 24 août, jour de la Saint-Barthélemy, c'est l'état de siège. Sur la Seine, les bateaux sont bloqués par des chaînes et la milice bourgeoise reçoit ordre de s'armer et de se tenir prête dans les quartiers. Thomas Croisier est posté avec Nicolas Pézou, rue Saint-Denis.
Pézou ! Le duc de Guise dit qu'il ne faudrait pas seulement saccager l'amiral, mais aussi tous les autres.
Ce serait un beau coup. Les portes de Paris sont fermées, la bête est prise au piège.
Et qui sait distinguer un huguenot d'un catholique ? Ils sont si semblables. Le roi ? Le duc de Guise ? Non. Nous, On connaît leur adresse, leur nom, l'étage et à quoi ils ressemblent. Pas un ne nous échappera.
Monsieur le capitaine.
Jacques.
Si je peux aider, contre les Huguenots.
Tu peux. Cette nuit, le roi va faire tuer Coligny et ses lieutenants. Et il veut qu'on poursuive. Et tous les biens pillés seront à toi. Sans danger ni travail.
Ah bon? Le roi tenait tellement à ses édits de pacification. Qu'est-ce qu'il a fait changer?
Il a découvert une conspiration formée contre lui par les Huguenots. Partant, il veut qu'on les tue tous et qu'il n'en reste pas un seul pour nous le reprocher.
J'en suis.
Alors, en guise de reconnaissance, déchire un bout de ta chemise et fais-en une croix blanche à ton chapeau.
C'est comme une croisade. Ces hérétiques sont partout, même dans ma propre famille. On a trop enduré, il faut jouer du couteau. Qu'est-ce qu'on attend?
Que l'église Saint-Germain-l'Auxerrois sonne le tocsin. Tu as une épée?
Oui. Comment on va s'y prendre?
On les chasse de leur maison et on les mène à la Seine. Je donne un coup de pistolet, et là tu frappes avec ton épée. Ensuite, c'est le signal. Tuez tout, le roi le commande. Nous prenons la rue Saint-Denis. Et toi, Pézou?
L'île de la Cité. Mais je préfère opérer seul.
Rue de Béthisy, l'amiral de Coligny et ses lieutenants sont défenestrés, leurs membres coupés. Au Louvre, Charles IX protège Henri de Navarre, tandis que les gentilshommes de sa suite, surpris dans leur sommeil, sont mis à mort.
La boutique du marchand de soie, c'est la maison de ma tante. Commençons par là.
Ah oui, je l'ai déjà arrêtée. Marie Passard, c'est ta tante? Je l'ai croisée il y a 2 jours, elle riait, l'impie.
Ouvrez au nom du roi! Ouvrez au nom du roi!
Passez-toi, mon neveu. J'ai entendu le tocsin, il y a un incendie, c'est ça? Tu veux des bras pour transporter les seaux d'eau? Je vais réveiller ton oncle. Mathurin!
Ma tante! Le feu, c'est l'amour de Dieu, et le bois, ce sont les hérétiques. Vous êtes tellement opiniâtre. Aujourd'hui, vous irez à tous les diables.
Jacques, que dis-tu? Tu veux m'arrêter? Mais j'ai aidé ma sœur à te mettre au monde.
Si Dieu ordonne de tuer, fût-ce même son fils comme Abraham, il faut tuer. Mes cousins et mes cousines sont là? Quoi?
Pas mes enfants.
Ils sont baptisés?
Oui, en l'église Saint-Méry. Un seul est baptisé selon le rite protestant.
Lequel? Donc, ils périront tous.
Je t'en prie. Épargne ma famille. Mathurin!
Alors invoque la Vierge Marie et renonce à ta religion.
Non! Je tiens la religion que j'ai et je la tiens bien. Jacques, tu es mon neveu. C'est un crime de bafouer les liens du sang. Qu'on vienne à notre secours, miséricorde!
Marie Passard et son mari sont conduits jusqu'à la Seine où ils sont abattus de la main du neveu avant d'être précipités dans le fleuve. Dans le quartier du Châtelet, les ruelles résonnent du bruit des armes, les lumières des flambeaux courent sur les murs. Sur l'île de la Cité, tout est calme.
Qui va là, en pleine nuit?
Nicolas Plezou, de la milice bourgeoise. Ouvrez au nom du roi.
Pierre, c'est lui qui avait arrêté Huguette il y a 3 ans.
Descends avec moi. Il va te cacher dans l'atelier. Va!
La milice. Comme Marie et Huguette, on ira en prison. On aura faim, on attrapera peut-être le typhus, mais si on paye la rançon, on s'en sortira. Qu'est-ce qu'il dit, ce Pézou?
Au nom du roi, réponds. Tu es seul dans cette maison? Oui. Non, prénom.
Pierre de Seine, horloger du duc de Montmorency, qui est maréchal de France, époux de Diane de France, elle-même fille du roi Henri II.
Montmorency? Il aime les Huguenots. C'est un de vos complices à la cour. Encore un qui a préféré la paix à l'unité catholique. Grandement suspect. On l'exterminera dès son retour à Paris. Il est sur la liste.
Exterminera? Montmorency est innocent. J'appelle Dieu à témoin. Je le prie et le reprie de vouloir être juge et le protéger.
Pierre de Seine, tu es soupçonné d'être de la nouvelle religion. Depuis quand n'as-tu pas été à la messe?
5 ans.
Tu sais ce que je crois? Que Dieu nous a envoyé les hérétiques pour nous punir de ne pas être de bons fidèles. Nous allons réparer ça. Abjure ta religion.
La conscience m'est trop précieuse pour que je renonce à la religion qui m'a instruit dès ma jeunesse. Si je n'ai plus guère de temps à vivre, c'est le moment de demeurer ferme en la connaissance de Dieu. Jésus-Christ, mon sauveur. Recommande mon esprit entre tes mains. Mon Dieu, mon Dieu.
Dieu prend lentement connaissance du péché, et plus il attend, plus il redoublera le supplice. Dans 1 heure,
Tu seras une charogne puante, charriée par les eaux, bectance des poissons. En route, au nom de Dieu.
Où l'emmène-t-il? Pierre, mon doux Pierre. Bézou dit qu'il va le tuer. Le tuer au nom de Dieu. Non, ce n'est pas Dieu qui tue. C'est folie de l'invoquer pour commettre un meurtre. Dieu est la justice même. En lui, il n'y a pas de crime. Ce sont des hommes qui tuent. Ils ont l'arrogance d'usurper la force divine. Jusqu'à la dernière minute, ils sont libres de tuer ou pas. Oh, Pierre, mon Dieu, sauve-le. Il a fallu si peu de choses pour faire surgir la guerre.
Cette nuit-là, Pézou et Croisier vont écumer toutes les maisons qu'ils savent habitées par des protestants. Un quadrillage de la ville a été mis en place par les gardes royaux qui contrôlent les rues. Les hommes d'armes du duc de Guise, la garde suisse et les troupes du duc d'Anjou, frère du roi, participent à la tuerie. Mais les plus actifs sont une poignée d'hommes de la milice bourgeoise. Quentin de Lestre, Claude Chenet, François Guinaud, Guillaume de Louer, Chocard Mercier et Jean Dupérier, avocats au Parlement. Sur les 3000 victimes parisiennes, Croisier et Nicolas Pézou en ont tué 800, soit, à eux deux, presque un tiers des meurtres. Jeanne a passé la nuit de la Saint-Barthélemy cachée dans l'atelier d'horlogerie.
Je n'ose allumer une bougie si on voyait la lueur de la rue. Quelqu'un qui tente d'échapper à la mort. Quel silence. Les arquebuses, les cris d'effroi, les hurlements des meurtriers, les corps qui tombent des fenêtres, traînés dans le cloaque sous les huées, tout s'est tu. Le jour se lève. Oh Pierre, mon doux Pierre, est-ce que tu vois naître ce jour? Enfin, il pleut. Cet orage, c'est la colère de Dieu. Je les ai entendus tuer et piller la maison d'à côté. Isaac était un bon maître artisan, c'est lui qui posait les mailles sur les boîtiers de nos montres. J'ai entendu leur éclat de joie au partage du butin. Le rire des tueurs. Bientôt, ils vont trembler. Ce n'est que la fenêtre qui s'est ouverte sous un coup de vent. Mon Dieu, la rivière est rouge de sang. Et ces cadavres qui flottent, ces femmes, ces filles, ces hommes, et ces petits corps, Seigneur, ils ont égorgé des bébés, de tout petits enfants. Et sur le pont aux meuniers, ils sont toujours à massacrer. Jusque à quand, Seigneur?
La population parisienne est restée toute la nuit terrée chez elle. En ce matin du 24 août 1572, on dénombre les victimes. Des bijoutiers, lapidaires, brodeurs d'or, mais aussi des magistrats, des avocats, des notaires, des étudiants. Vers 9h du matin, le roi ordonne de cesser les massacres. Dans la journée, les pillages redoublent. Les riches propriétaires se mettent à craindre pour leurs biens et vers 5h du soir, interdiction est faite de piller. Les trompettes de la ville annoncent aussi que chacun doit rester chez lui. Seuls les soldats du roi sont autorisés à circuler armés. C'est l'accalmie. Le lendemain, le temps est beau et serein. Pendant le massacre, les parlementaires s'étant claquemurés chez eux, le Parlement de Paris est resté silencieux. Au matin du 26 août, le roi vient y faire une déclaration. Vers midi, Pézou retrouve Croisier dans sa maison quai de la Mégisserie. Il se restaure d'une tranche de bœuf braisée, posée sur un morceau de pain enduit de moutarde.
Tu l'as entendu comme moi. Devant le Parlement, le roi a dit que l'assassinat des chefs protestants était à son initiative, face à un complot qui voulait renverser l'État.
Oui, il s'est justifié d'une exécution politique. Une justice d'exception devant un péril imminent à son grand regret et déplaisir. Mais Pézou, il a dit que la religion n'avait aucune part dans sa décision. Tu comprends ce que ça veut dire?
Qu'il se défausse du massacre des protestants?
Oui.
Il semblerait que Dieu n'a pas illuminé l'esprit du roi en lui dévoilant la nécessité d'en finir avec eux.
Je ne peux retenir ma colère. Le roi a proclamé qu'il faut maintenir l'édit de pacification.
Il trahit la cause de Dieu, lui et les parlementaires. Tous ces gentilshommes politiques pactisent avec l'hérésie. On doit défendre la cause de Dieu et des catholiques. On doit désobéir.
Tu as raison. La reconquête catholique des âmes passe par la sédition. Le roi ordonne qu'on les emprisonne pour les protéger. La milice les massacrera en prison.
Jusqu'au dernier. Il y en a encore tellement, et des enfants petits et grands. Il faut arrêter cette prolifération de cafards, de vipères.
Le dieu des cieux exaucera nos vœux. Il a accompli le mien. Tu vois ma maison? Une vieille bâtisse délabrée. Bientôt j'emménagerai dans un hôtel particulier. Chez Mathurin Lussault. Cette nuit je l'ai...
Et tu n'as pas peur que son spectre revienne?
Dieu a porté mon bras. La guerre sainte, Pézou.
Que le roi le veuille ou non, tous les protestants iront dans l'enfer des démons. Paris sera purifié et nous gagnerons notre salut.
Tiens. J'ai là l'adresse d'un certain Pajot, rue Saint-Denis. Allons.
Pendant quelques jours, la milice bourgeoise fait régner la terreur par des bastonnades et des arrestations. Femmes et enfants ont été tués en grand nombre. Le 27 août, les gardes royaux font défense de tuer les femmes. Jeanne, confiante pour sa sécurité, s'aventure hors de chez elle. Rue Saint-Denis, elle constate que la boutique de Marie Passard est close et sa maison inhabitée. La librairie du Guet a été saccagée. Les métiers du livre ont cristallisé la haine des fanatiques catholiques qui les accusent d'avoir propagé la pensée protestante dans toute l'Europe. Libraires et imprimeurs ont été durement touchés par le massacre.
La vie a repris. Les passants vaquent à leurs occupations. Il ne leur est rien arrivé, à eux. Pourtant, il y a du sang sur les portes, les murs, sur le pavé. Et plus personne chez Marie, chez Huguette, dans l'atelier de relure de Maître Guillaume et sa femme. Personne chez le cordonnier, sa femme et ses trois enfants. Ni chez l'épinglier de la rue Montorgueil. Mais les tueurs n'étaient pas encore saoulés de sang. Ils ont ôté la vie à de vieilles gens, à de pauvres malades couchés au lit tout à plat, et à Pierre, le plus doux des amants. C'est Huguette que j'aperçois là-bas.
Dieu soit loué, tu es vivante. Ma chère Jeanne, viens, viens près de cette porte qu'on ne nous voit pas. Je suis restée cachée depuis cette horrible nuit, mais je n'y tiens plus. Tu es là, et tes yeux sont bien tristes. C'est Pierre. Il n'a pas eu peur de la mort. Il a tenu sa religion jusqu'au bout, il y a laissé sa vie. La puissance des assassins ne s'étend que sur nos corps. C'est Pézou qui l'a fait. Mon cœur se soulève à prononcer ce nom. Pierre n'a pas abjuré. Il n'a pas cédé à la violence. C'est ainsi que Dieu éprouve ses serviteurs. Moi, je ne sais pas ce que je choisirai. Ma religion ou ma vie. Et nul ne t'en voudra, Huguette. J'ai appris que Marie est par son propre neveu. Oui. Et Marie-Robert, je t'en avais parlé, son commissaire de Marie, catholique zélé, a remercié ceux qui ont tué sa femme. Remercié, Jeanne, tu entends? Et la fille du veloutier, tu la connaissais? Traînée par les cheveux dans la rue et violée comme des centaines de femmes. Bon, Jeanne, il faut nous séparer maintenant. Oui. Mais je quitte Paris, Huguette. Et je voulais te régler la Bible, tu te souviens? Je te la donne, Jeanne. Qu'elle te protège. Adieu.
La reverrai-je? C'est horrible de ne pas se dire au revoir. Mais c'est Pézou au coin de la rue. Je tremble en le voyant comme Marie tremblait. Seigneur, il a reconnu Huguette.
Pézou emprisonne Huguette à la conciergerie, où elle abjurera le protestantisme et aura ainsi la vie sauve. Le 27 août 1572, Charles IX interdit le culte réformé dans toute la France. Le 4 septembre, lors d'une grande procession, Pézou et Croisier portent la chasse de Sainte-Geneviève, pieds nus, vêtus d'une aube blanche. Ce jour-là, Jeanne s'apprête à quitter Paris. Avant de fermer l'atelier d'horlogerie et de partir, elle remonte les horloges.
Tant que les horloges battent encore dans l'atelier, c'est un peu comme si Pierre était présent. J'ai survécu et mon enfant en moi. Ils ont tué tant de femmes enceintes, transperçant leur ventre au couteau pour en tirer les petits innocents avec les mains et les brandir en demandant vengeance à Dieu. Ils ont profané toutes les lois humaines à peine une semaine après ce mariage d'Henri et de Marguerite, après la magnificence des festivités, la somptuosité des bals, des représentations théâtrales avec leurs nymphes, la splendeur des chants, des poèmes, tout le raffinement de la cour du roi de France. Derrière le Louvre, une grande roue faisait tourner les signes du zodiaque, les planètes et les étoiles, comme pour convoquer le ciel aux beautés de la paix. Un moment de grâce, suivi d'une telle sauvagerie. Je pars. Je n'emporte rien. Je reviendrai avec mon enfant.
« 1572, le massacre de la Saint-Barthélemy » de Christine Spianti, avec Jeanne Brégand, Leslie Bouchet, Pierre de Seine, Aymeric Le Cerf, Marie Passard, Tiphaine Rabault-Fournier, Huguette Beaufils, Lina Alzayed, Thomas Croisier, Charles Morillon, Nicolas Pézou, Marc Lamigeon, Jacques, Loïc Maubillan. Bruitage Bertrand Amiel, enregistrement, montage et mixage Mathieu Leroux et Timothée Hubert, assistante à la réalisation Sophie Pierre, réalisation Baptiste Guiton. Autant n'importe l'histoire est réalisé par Audrey Ripouille, assistée de Frédéric Martin, programmation musicale Juliette L'Orphelin, à la technique Maxime Goudard. Et je remercie également France Bleu Provence. Jérémy Foa, le massacre de la Saint-Barthélemy provoque la mort à Paris de 3000 protestants et sera suivi de nombreux massacres dans les mois qui suivent dans toute la France. Au total, on compte environ 10 000 victimes.
Oui, 10 000 victimes dans toute la France. Alors, on est au XVIe siècle, la comptabilité est difficile à être véritablement scientifique, mais effectivement, très rapidement, les nouvelles se propagent en France, et il y a un massacre qui arrive quasiment le lendemain, à Orléans, peut-être 1000 morts, puis à Lyon le 31 août, puis à Rouen le 16 septembre, et puis progressivement, au fur et à mesure de la diffusion de la nouvelle en France, on a des massacres aussi bien à Bordeaux qu'à Toulouse, les 3 et 4 octobre 1572. On considère, sans être véritablement sûr du chiffre, qu'il y a à peu près 10 000 victimes dans tout le royaume.
Est-ce qu'un ordre a été donné pour perpétrer ce massacre de masse, enfin après le meurtre des 20 protestants, des chefs huguenots ?
Alors là-dessus, les historiens sont tous d'accord, non. Il y a eu absolument aucun ordre, et tous les ordres qu'on a retrouvés, on en a retrouvé des dizaines, ce sont des lettres adressées par Catherine de Médicis ou par Charles IX à leur gouverneur, c'est-à-dire leur représentant dans les provinces, et ces ordres sont unanimes. Il y a eu un massacre à Paris. Je veux que mon édit soit respecté et que les protestants soient protégés. Donc aucun ordre royal, au contraire l'ordre royal il est très clair, il est de préserver la paix et de préserver la sécurité des protestants. Donc la question et l'énigme, c'est comment est-ce qu'on passe de cet ordre royal de préserver la paix à des massacres dans les provinces. Il faut bien imaginer qu'il y a des hommes qui ont désobéi. Il y a des marchands qui ont porté la nouvelle en disant que le roi voulait être imité. Mais il y a aussi des nobles qui, depuis Paris, c'est le cas du duc de Montpensier, par exemple, gouverneur de Nantes, ont écrit des lettres aux habitants de Nantes pour commander le massacre. Donc, aucun ordre royal incitant au massacre. Par contre, des rumeurs, des contre-lettres, des marchands qui circulent et qui trouvent sur place des oreilles qui sont vraiment trop contentes de mettre à exécution ceux dont ils ont toujours rêvé.
Vous écrivez, Jérémy Foa, dans votre livre, que la Saint-Barthélemy n'a pas été préméditée, mais qu'elle a été préparée. Que voulez-vous dire ?
Eh bien, je pense qu'il est très important de tenir les deux. Il n'y a pas eu de préméditation. Catherine de Médicis, ni Charles IX, ni même les tueurs qui ont du sang sur les mains, ne savaient que ce soir-là, il y aurait un massacre. Ce n'est pas un complot, il n'y a pas quelqu'un qui a décidé d'en haut d'exécuter les protestants français.
Mais elle
a
été
préparée.
C'est un
grand progrès. Alors voilà, on ne peut pas pour autant comprendre la mise à mort de 3000 personnes en imaginant qu'ils improvisent la mise à mort du jour au lendemain. Il faut qu'ils soient préparés à la violence. Alors comment on se prépare ? Eh bien, on se prépare en harcelant, en persécutant, en arrêtant les protestants. C'est ce qu'ont fait, par exemple, Croisier ou Nicolas Pézou, qui, depuis des années, s'entraînaient, si l'on peut dire, se préparaient à jeter les protestants en prison, à les racketter, à les humilier. Et tous ces petits gestes, toutes ces petites persécutions qui, en réalité, s'accumulent depuis 1562 et se sont multipliées depuis 1568, eh bien, ça crée un savoir-faire. qui n'a besoin que d'être actualisé le soir du massacre. Donc à la fois, ils ne savaient pas qu'un massacre aurait lieu ce soir-là. Ils le souhaitaient, de tout leur cœur, bien sûr. Ils étaient prêts. Ils savaient où frapper, quand frapper, comment arrêter les protestants. C'est en ce sens-là qu'il est important, pour comprendre à la fois de l'effet de surprise, mais aussi l'efficacité des tueurs, de tenir ces deux termes a priori contradictoires, non prémédités, mais préparés.
Oui, et c'est un massacre de proximité, c'est ce que vous montrez très bien, Jérémy Fawa, dans votre livre, et qu'on a bien entendu aussi dans la fiction. C'est que pour savoir qui est protestant, il faut les connaître personnellement, il faut connaître leur visage, connaître leurs adresses. Et comme rien ne ressemble plus à un catholique qu'un protestant, il faut donc les connaître. Il n'y a que donc ces tueurs qui habitent dans Paris, qui les connaissent donc depuis longtemps, qui peuvent les reconnaître et qui vont les tuer donc, pendant cette nuit de la Saint-Barthélemy.
Oui, c'est très important pour moi de poser cela, car en effet, Catherine de Médicis, par exemple, ou même le duc de Guise, ignore qui est protestant dans les rues de Paris, et encore plus dans les rues de Lyon ou dans les rues de Bordeaux. Donc, pour savoir qui est en possession de cette information, il fallait descendre au niveau du voisinage. Depuis, ces hommes qui, du simple fait de fréquenter les protestants, ont accumulé un certain nombre d'informations sur eux, leur adresse, leur visage, et puis le fait qu'ils n'ont pas fait baptiser leur enfant à l'église, mais au temple, le fait que ça fait plusieurs années qu'ils ne vont pas à la messe. Toutes ces informations, elles sont acquises par la simple vie en commun, par les simples formes de sociabilité entre voisins, qui fait que, bien, ce sont des voisins, et en particulier des miliciens, qui sont capables, très vite, de savoir où habitent les protestants, à quoi ils ressemblent. Ça veut dire concrètement pour un protestant que s'il réussit à échapper à son quartier le soir du massacre de la Saint-Barthélemy, il est à peu près sauvé. C'est-à-dire que dans le quartier, on va le reconnaître comme protestant, on risque de le persécuter, mais dès qu'il réussit à sortir de ce quartier, bien les gens ne sauront pas qu'il est protestant.
On assiste donc dans cette nuit à des scènes terrifiantes. Le fanatisme est tel qu'on voit même une femme, on l'a entendu, être arrêtée par son propre neveu, donc qui n'hésite pas à la tuer, ainsi que son mari. C'est le fanatisme absolu.
Oui, alors fanatisme serait peut-être un terme un peu anachronique, mais on peut dire qu'il y a une véritable passion et une angoisse religieuse. C'est sans doute le terme d'angoisse qui est le plus pertinent pour parler de ce que ressentent ces catholiques. Ce sont des catholiques zélés qui sont violemment angoissés à l'idée de leur salut.
Oui,
comment faire pour être sauvé? Et une des techniques pour être sauvé, eh bien, c'est d'exterminer des hérétiques pour plaire à Dieu. Donc c'est vraiment l'angoisse, qui est aussi une forme de haine religieuse, qui est sans doute au moteur de ces catholiques. Alors on peut les taxer de fanatiques, en disant que ce terme a été forgé après. Alors, les motivations premières, c'est la religion, c'est l'angoisse religieuse, mais dans un second temps, il y a toute une série de motivations qui peuvent jouer. Alors, la jalousie économique, par exemple, les protestants sont souvent, pas toujours, souvent plus riches que les catholiques, parce que, bien, sociologiquement, les protestants sont mieux formés, plus lettrés, et donc ils ont tendance à avoir des métiers un peu plus en vue. Donc il peut y avoir cette forme de jalousie sociale, mais il faut bien voir que des gens comme Croisier ou comme Nicolas Pezou, ce ne sont pas des pauvres, ce ne sont pas des gens qui sont dans le besoin et qui auraient agi pour évidemment, ils rackettent les protestants, mais ce n'est pas leur motivation première.
Jérémy Fawa, que vont devenir les tueurs? Est-ce qu'ils vont être punis pour leur crime, ou au contraire, vont-ils être récompensés?
Alors là, malheureusement, effectivement, on est obligé de voir que cette histoire n'a pas de morale, puisque non seulement les tueurs ne seront pas punis, puisque au lendemain de la Saint-Barthélemy, il y a un édit d'amnistie qui fait qu'on oublie tout. Ils ne seront pas poursuivis, ce qui fait que pour l'enquêteur, il y a très peu d'archives qui auraient pu naître de ces interrogatoires des tueurs. Ils n'ont jamais été poursuivis par la justice. Non seulement ils ont été blanchis, amnestiés, mais ce qui est le plus étonnant, c'est que très souvent, ils ont été gratifiés par la couronne. Je vous donne seulement un exemple. Nicolas Pezou, quelques mois après le massacre de la Saint-Barthélemy, en janvier 1573, est nommé par Henri d'Anjou, le fils de Catherine de Médicis, futur Henri III. Il est nommé prévôt général de Languedoc, donc juge dans le Languedoc, juge royal dans le Languedoc, une tâche tout à fait prestigieuse dans laquelle il va pouvoir continuer sa croisade, continuer à persécuter les protestants.
En conclusion, Catherine de Médicis donc, n'a pas commandité ce massacre, mais elle récompense ceux qui l'ont perpétré.
Très difficile de comprendre, pour moi, la position de Catherine de Médicis. Effectivement, elle les récompense, probablement aussi parce qu'il est difficile de se débarrasser de ces hommes qui sont puissants dans Paris. Donc, il y a une forme de crainte et une forme d'impuissance, une volonté de ne pas faire de vagues, de ne pas relancer à nouveau les violences. Il y a tout ça dans la tête de Catherine de Médicis, probablement, qui se mêle.
Merci Jérémy Foa, bien sûr, difficile de ne pas voir dans tous ces massacres, d'autres massacres qui auront lieu plus tard, plus près de nous, la rafle du Veldiv ou le génocide rwandais, mais c'est un autre sujet. Je recommande vivement la lecture de votre livre « Tous ceux qui tombent, visage du massacre de la Saint-Barthélemy » qui a été édité par La Découverte en 2022 et qui a reçu plusieurs prix. Vous êtes aussi l'auteur avec le dessinateur Pochep d'une BD « Sacrée guerre de Catherine de Médicis à Henri IV » dans la série « Histoire dessinée de la France ». La revue dessinée, La Découverte, éditée donc en 2020. Voilà, Autant n'importe l'histoire est terminée pour ce soir. Vous pouvez réécouter cette émission, la podcaster, sur notre site radiofrance.fr où j'attends avec impatience vos commentaires ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Dimanche prochain, nous reviendrons plus près de nous, au XXe siècle, en compagnie d'Albert Camus. Au lendemain de la Libération, l'écrivain est une figure de l'intelligentsia française, très ami avec Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir. L'auteur de L'étranger et de l'homme révolté va pourtant se brouiller avec eux lorsque Sartre et Beauvoir se refusent de condamner le totalitarisme soviétique. Albert Camus et Jean-Paul Sartre, La déchirure, c'est dimanche prochain à 21h sur France Inter.